France Inter. .fr.
Le journal Stéphane Leneuf, bonjour.
Bonjour. La France rock'n'roll en musique, chantant aux côtés de son idole des dizaines de milliers de fans de Johnny Hallyday en ce moment sur les Champs-Élysées, place de la Concorde devant la Madeleine. Immensissime hommage populaire pour le chanteur. Nous serons en direct de la Madeleine dans un instant, mais aussi sur les Champs-Élysées avec les 700 bikers qui ont accompagné le cortège funéraire. Tir de roquettes, bombardement israélien, deux Palestiniens tués ce matin. Situation toujours très tendue en Israël et dans la bande de Gaza après la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. En Californie, les incendies géants sont toujours hors de contrôle. Plus de 200 000 personnes évacuées ces dernières heures. Le droit de suite, un an après l'attentat de Berlin, où en est l'Allemagne. Reportage de Cyril Sauvageau, invité de ce journal, Hélène Miard Delacroix, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne. Le Téléthon a un numéro, le 36-37, c'est jusqu'à cette nuit, 1h du matin, un peu plus de 13 millions d'euros récoltés pour l'instant. La prescription culturelle, ce sera à la fin de ce journal et ce sera en compagnie ni d'Eva Béton.
France Inter.
Émotions, larmes, applaudissements, motos, escorte de motards de la gendarmerie, mais aussi rock'n'roll, vous l'entendez. Ce n'est pas un hommage national, mais cela y ressemble beaucoup. Immense hommage populaire en musique depuis ce matin pour Johnny Hallyday. Un véritable concert, on peut le dire. Des dizaines de milliers de fans du chanteur se sont massés sur les Champs-Élysées, place de la Concorde, mais aussi devant l'église de la Madeleine où le cortège funéraire est arrivé. Corinne Pélissier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes actuellement devant l'église de la Madeleine où le recueillement a fait place à la musique. Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer.
Exactement, Emmanuel Macron qui a commencé il y a quelques minutes l'éloge funèbre qui avait été annoncé. Vous êtes là pour lui, près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums. Vous êtes là, je sais que vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il arriverait sur une moto, il entamerait une première chanson. Vous commenceriez à chanter avec lui, il ferait ensuite semblant d'oublier une chanson et vous recommenceriez à chanter. Johnny, depuis le début, était là pour vous. Effectivement, vu depuis la place de la Madeleine, la cérémonie est assez conforme au souhait qu'avait émis le chanteur de la musique, du rock, des fans, une immense ferveur populaire. C'est sans doute ici qu'il y a le plus grand nombre de fans. La rue Royale qui mène à l'église de la Madeleine est noire de monde. Alors que le cortège est arrivé ici il y a quelques minutes à traverser la foule, vous les entendez, des milliers, des dizaines de milliers de fans venus de toute la France, emmitouflés dans des doudounes, des gants, des bonnets. Il fait un froid glacial ici. Mais ça n'a pas arrêté les inconditionnels qui poussent des cris, des sifflets, qui appellent Johnny et tentent aussi de monter sur les barrières pour certains, car tout le monde n'est pas logé ici à la même enseigne. Certains fans, les plus assidus à ces concerts, ont été autorisés à pénétrer dans l'église aux côtés des proches et de la famille, tandis que les autres restés de chaque côté des grandes barrières, eh bien, ont repris en attendant la cérémonie, les tubes en cœur de Johnny, toute la musique que j'aime, l'envie, je te promets, l'idole des jeunes, Gabriel, avec un solo d'harmonica qui restera sans doute dans les mémoires grâce aux musiciens du chanteur qui étaient réunis sur une scène devant l'église autour de Yarol Poupeau, le guitariste de Johnny, qui était là avec ses lunettes noires, le visage sombre, beaucoup d'émotions en attendant l'office religieux qui devrait démarrer maintenant dans quelques minutes.
Voilà Corinne, alors l'office religieux, vous nous en parlez, ça va effectivement démarrer donc dans quelques minutes après le discours d'Emmanuel Macron. Hein.
Voilà, alors le cercueil a été porté sur les marches de l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron est en train de terminer donc son oraison funèbre. Le convoi, enfin les personnes qui accompagnent le convoi vont ensuite rentrer dans l'église. Il y aura une première prise de parole par Philippe Labro, qui a écrit beaucoup de chansons pour Johnny Hallyday, on le sait. Puis l'écrivain Daniel Rondeau, qui est un proche, avant une cérémonie des bougies au son de « Je te promets » par les musiciens de Johnny Hallyday, Marion Cotillard, Carole Bouquet, Jean Reno, Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel, puis Lynn Renaud prendront ensuite la parole avant la bénédiction du corps par la famille et le couple Macron. Le cercueil de Johnny Hallyday quittera enfin l'église de la Madeleine au son d'Ave Maria.
Merci Corinne Pélissier, donc en direct de l'église de la Madeleine. Et je vous propose d'écouter tout de suite Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer.
Vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. Près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums, et vous êtes là, encore là, toujours là, Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto. Il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Il présenterait ses musiciens et vous applaudiriez. Vous applaudiriez plus encore.
Emmanuel Macron, donc en ce moment devant l'église de la Madeleine aux obsèques de Johnny Hallyday. Auparavant, avant l'église de la Madeleine, plus de 700 bikers, des motards, donc, ont descendu les Champs-Élysées derrière le convoi funéraire. Image impressionnante, historique, on peut le dire, de cette horde de motards accompagnant la dépouille de Johnny Hallyday. Philippe Randé, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez à leur côté hein, depuis ce matin. Beaucoup d'émotions, je suppose, à travers dans ce cortège.
Oui, les proches de Johnny Hallyday voulaient de l'amour et du rock'n'roll. Eh bien, ils ont été servis avec une image qui résume tout. Imaginez cette rose blanche jetée par le public ici devant nous sur les pavés des Champs-Élysées. Même le sol, donc, une rose sur laquelle les centaines de motards en Harley-Davidson n'osent pas rouler tout au long de ces 2 kilomètres de descente des Champs-Élysées. Il y a eu ces scènes, ce public massé contre les barrières avec des drapeaux, des pancartes, des écharpes Johnny, en pleurant, en criant, en chantant, en silence. Ils ont regardé passer le corbillard transparent avec le cercueil clair de la star des Yéyés. Je me trouve toujours sur les Champs-Élysées. Vous entendez peut-être derrière moi l'écran géant avec Emmanuel Macron, mais aussi avec toutes ces motos qui continuent à passer devant nous. Nous sommes en direct avec un de ses fans contre les barrières des Champs-Élysées. Bonjour Dany.
Bonjour.
Alors vous êtes venu de Nancy. On voit toujours hein, toutes ces motos passer. Qu'est-ce que vous ressentez ?
C'est gigantesque. C'est rock'n'roll. Un hommage à la mort de... On ne pouvait pas faire moins bien. De toute façon, c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui et ça ne se durera peut-être plus jamais, je pense.
Oui, parce que ça fait plus d'une heure hein, que le cortège a commencé à descendre les Champs-Élysées. Et autour de nous, ici, sur les Champs-Élysées, qui ont été coupés pour permettre au public d'être plus proche de la dépouille du chanteur sur ces Champs-Élysées, il y a encore des milliers, des dizaines de milliers de personnes, fans un peu, beaucoup, ou même à la passion, comme Dany. Ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes ont tenu donc à 9 décembre 2017 ensemble, et ce alors que le cortège funéraire, vous entendez, est en ce moment à l'église de la Madeleine.
Merci Philippe Randé, une liaison un petit peu difficile, sans doute beaucoup, beaucoup de monde effectivement au téléphone. Donc je vous rappelle que Johnny Hallyday sera donc inhumé lundi à Saint-Barth.
Le journal de 13h. France Inter.
Situation toujours très tendue en Israël et dans la bande de Gaza après la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ce matin, en riposte à des tirs de roquettes palestiniens, Israël a effectué des raids aériens dans la bande de Gaza. Bilan, 2 Palestiniens tués. Cela fait monter l'inquiétude avec des risques de nouvelles escalades, Étienne Monin.
Oui, parce que les victimes de la décision américaine et de la colère palestinienne sont pour l'instant à Gaza, 4 morts en moins de 24 heures, et quelque chose de changé dans l'habituelle chorégraphie des tirs et des répliques autour de l'enclave. Depuis 2014, ils sont majoritairement à somme zéro. Aujourd'hui, il y a des dégâts et des victimes, alors que le Hamas a monté le ton en fin de semaine et que l'horizon politique en Palestine est incertain. Hier soir, 3 roquettes ont explosé et sont partis depuis Gaza. L'une a explosé au sud de Sderot. Elle n'a pas fait de blessés, mais des dégâts matériels. La réplique israélienne a eu lieu en 2 temps. 15 de blessés dans la nuit et 2 morts dans des raids aériens ce matin. Les 2 victimes ont été tuées dans une base militaire. Elles appartiennent à la branche armée du Hamas qui est tenue responsable par l'armée israélienne en cas de tir de roquettes, même si ces tirs depuis la dernière guerre sont attribués à des groupes salafistes que le Hamas tente de contenir. Les tirs d'hier ont d'ailleurs été revendiqués par un groupe salafiste et par les brigades des martyrs Al-Aqsa.
Merci Étienne Monin, en direct donc de Jérusalem. En Californie, les incendies géants sont toujours hors de contrôle. Nouveau foyer à Santa Barbara et à San Diego. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées ces dernières heures. Le droit de suite sur France Inter, c'est tous les samedis dans le journal de 13h. Il y a bientôt un an, le 19 décembre 2016, l'Allemagne était frappée pour la première fois par un attentat terroriste de grande ampleur. Un camion bélier foncé sur un marché de Noël à Berlin. Bilan, 12 morts, une 50aine de blessés. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un an plus tard, plusieurs questions. Où en est l'Allemagne? Quelles mesures ont été prises? Le débat sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme a-t-il pris de l'ampleur? Des centaines de marchés de Noël viennent de démarrer. On écoute le reportage à Berlin de Cyril Sauvageau.
Sur le marché de Noël de Breitscheidplatz, là où a eu lieu l'attentat il y a un an, la présence policière est particulièrement visible cette année. Blocs de béton, patrouilles incessantes, vidéosurveillance, tout est fait pour que les visiteurs comme Thomas et son épouse Claudia se sentent en sécurité.
C'est vrai que nous nous sommes demandé si nous allions venir après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais en fait, tout est très bien surveillé, c'est peut-être un peu dommage d'en arriver là, mais ça nous permet de nous sentir mieux.
Moi, quand je vois tous ces camions de police, ça me rappelle plutôt qu'il y a un danger. C'est vraiment un sentiment désagréable.
Ce sentiment reste partagé par beaucoup d'Allemands qui refusent, pour des raisons liées à leur histoire, toute surenchère sécuritaire. Depuis un an, l'État et les collectivités ont bien sûr durci les contrôles et la CDU d'Angela Merkel a promis des renforts policiers pendant sa campagne électorale. Mais pas de plan Vigipirate, ni de soldats dans les rues. D'ailleurs, la loi ne le permet pas. Et les marchés de Noël seront surveillés normalement, affirme Holger Münch, le patron de l'Office fédéral de police criminelle.
Cette vigilance particulière est valable pour tous les grands rassemblements publics, quels qu'ils soient. Mais nous n'avons pas connaissance alors qu'il est de menaces particulières visant les marchés de Noël.
Selon un sondage publié récemment, une large majorité des Allemands ne changeront rien à leurs habitudes. Ils iront sur les marchés de Noël, car comme le dit Claudia, ce serait donner le pouvoir aux terroristes. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Invité de cette édition pour évoquer la situation en Allemagne un an après cet attentat de Berlin, Hélène Mière-Delacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne. Un an après, qu'est-ce qui a changé en Allemagne après cet attentat?
Alors, ce qui a changé, comme le dit bien le reportage, c'est quand même une présence policière qu'on voit un petit peu plus sur les marchés de Noël ces derniers jours, en effet. Pour autant, il est vrai que l'image des villes ressemble à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire qu'on ne voit toujours pas de policiers ou de soldats armés. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée des magasins. Et on a plutôt l'impression que, pour les gens, la vie continue de la même façon.
Quel sentiment règne un petit peu dans la population, effectivement, depuis un an? Est-ce qu'il y a un sentiment de crainte de nouveaux attentats ou pas?
Alors, des sondages montrent que la crainte du terrorisme est passée en tête de toutes les craintes qu'il peut y avoir, en particulier aussi des problèmes de l'euro ou des suites de l'arrivée de nombreux migrants en Allemagne. Donc il y a une prise de conscience, si l'on veut, après que l'Allemagne avait l'impression d'être une espèce d'îlot protégé du terrorisme. Et je crois qu'en Allemagne aussi, tous les autres attentats qui ont eu lieu depuis, notamment en Espagne, notamment en Grande-Bretagne, donnent l'impression que nous sommes d'une certaine façon tous confrontés à la même menace. Et ça, c'est venu très clairement dans la conscience de tous les Allemands.
Alors, on l'a entendu dans le reportage de Cyril Sauvageau, les Allemands se refusent toujours à la surenchère sécuritaire. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'un équilibre finalement a réussi à être trouvé en Allemagne?
Alors, l'équilibre est assez bien trouvé. Il n'y a surtout pas une présence visible de forces armées. L'Allemagne a un rapport à sa police et à son armée qui est peut-être un tout petit peu différent de celui qu'on peut connaître chez nous. Les policiers sont beaucoup plus armés qu'avant, alors que jusqu'à présent, on avait quand même plutôt l'impression de policiers plutôt bonhommes, un peu rappelant les bobbies britanniques. Mais le refus de voir des soldats dans les rues reste quand même une conviction de l'Allemagne qui défend cette position d'un pays très civil, d'une puissance très civile, et où vivre ensemble se fait plutôt par une espèce de solidarité que par une présence armée qui vraiment, je crois, inquiéterait beaucoup et qui dépasserait la capacité d'acceptation de la population actuellement en Allemagne.
Est-ce que, d'un point de vue politique, finalement, le résultat des élections du mois de septembre, est-ce que ces attentats ont eu une influence? Est-ce qu'ils pourraient avoir une influence sur les politiques pour les années à venir, pour les mois à venir?
Alors, il est certain que dans les consultations qui ont lieu actuellement, les pourparlers en vue de créer un nouveau gouvernement, la situation de la sécurité intérieure fait partie des grandes priorités. Parce qu'on sait très bien que les résultats des élections sont en partie une réponse à une insatisfaction d'une partie de l'électorat face à la situation qu'elle soit. Alors après, il est très difficile d'identifier ce qui relève d'un refus de la politique migratoire, d'une demande de plus grande protection. C'est assez difficile. Il n'empêche que c'est très clair que ça va être est très très au centre des pourparlers, parce que les différents partis ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Et puis ça va être très très clairement inscrit noir sur blanc dans le fameux contrat de coalition qui finira bien par sortir de ces pourparlers lorsque un gouvernement sera formé.
Alors justement, quel équilibre dans ce futur contrat de coalition avec le SPD? Est-ce que Angela Merkel peut trouver un terrain d'entente justement entre plus de sécurité, plus de protection?
Alors, il faut pas aller trop vite en besogne. Le SPD et la CDU commencent des pourparlers pour voir s'il peut se dégager un espace d'entente. Ça veut dire que chacun des deux partis va devoir renoncer, comme toujours, à une partie de son profil, si vous voulez, de son offre et de son programme avec lequel il est allé aux élections. Il est certain qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on peut retrouver une entente, en particulier sur l'Europe d'ailleurs. Après, il faudra discuter exactement des conséquences que cela peut avoir en termes de dépenses globales. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels il n'y a pas d'accord. Notamment, le SPD se trouve dans la position délicate de devoir retourner au gouvernement et donc de risquer, une fois de plus, de perdre son programme spécifique qui est beaucoup plus social et beaucoup plus favorable à des dépenses publiques en faveur des infrastructures et en faveur des moins riches. Et ça, c'est difficile.
Je voulais revenir rapidement à l'aspect sécurité. Est-ce que depuis ces attentats, il y a eu une politique franco-allemande vraiment sur le terrain qui a été mis en place effectivement pour assurer plus de protection, plus de sécurité pour les deux pays?
Alors, il y a très, très nettement des vrais échanges et des vraies concertations, et il apparaît, une fois que le gouvernement sera formé, quel qu'il soit, que le domaine de la sécurité intérieure est un des dossiers sur lesquels, sur une initiative franco-allemande, on pourrait avancer plus vite en Europe. D'abord parce qu'il est absolument nécessaire de trouver cette coopération très étroite, et puis parce que c'est une demande que l'on trouve dans tous les pays, et puis c'est un des points où les Français et les Allemands ont l'habitude de très bien coopérer, et pourrait donc faire avancer les choses. Après, sur le terrain, ni vous ni moi ne savons exactement ce qui s'y passe, mais je crois que c'est là un des points où la proximité et l'habitude de travailler ensemble des Français et des Allemands peut être le plus efficace.
Merci Hélène Mire-Delacroix, vous êtes donc professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne, qui était notre invitée aujourd'hui dans le journal de France Inter. Une collision entre un train intercité, une voiture et un passager a fait un mort hier soir en Haute-Saône. Le train effectuait la liaison Paris-Belfort. Il a percuté un véhicule qui était immobilisé sur la voie. Le conducteur âgé de 27 ans est mort. Aucun des passagers du train n'a été blessé. Et puis cet incendie qui a ravagé cette nuit un campement rom situé dans le 15e arrondissement de Marseille. Les marins-pompiers ont retrouvé le corps d'un homme de 35 ans. Un incendie probablement d'origine accidentelle. La page politique de ce journal avec le vote demain chez les Républicains. Un premier tour pour élire le nouveau patron de la droite française. Laurent Wauquiez est archi-favori. Deux autres candidats sont sur les rangs. Florence Portelli et Maëlle de Calan. Et dans le Limousin, beaucoup de militants se disent persuadés que tout se jouera demain, qu'il n'y aura pas besoin de second tour et avec une grande question, quel sera le taux de participation? On écoute le reportage de Philippe Grattiani.
Jean-Daniel Villatte, le président des Républicains en Corrèze, le reconnaît. Il y a peu encore, il ne connaissait même pas lui-même les deux adversaires de Laurent Wauquiez. Mais son choix a été fait depuis longtemps, de toute façon.
Aujourd'hui, il nous faut un patron chez les Républicains. Et je pense que le mieux qui est habilité à être le patron, c'est Laurent Wauquiez.
Et dans la région, ce choix est quasi unanime, par loyauté parfois, comme chez Émile Roger-Lomberti, le maire de Limoges, qui affiche son soutien à Laurent Wauquiez en rappelant que celui-ci est venu le soutenir lors des municipales. Quelques voix discordantes tout de même, celle de la députée corrézienne Frédérique Meunier, qui votera Florence Portelli, sans pour autant regretter la victoire probable de Laurent Wauquiez.
Je me dis, si c'est Monsieur Wauquiez qui passe, eh bien j'espère qu'elle sera dans son staff. Et c'est ça qui est bien, ça va permettre de pouvoir aussi équilibrer et de dire, il y a quand même eu deux autres candidats, il faut leur laisser leur place, parce qu'ils représentent aussi une partie de l'électorat.
Mais Frédérique Meunier rapporte le manque d'enthousiasme des militants dans ce scrutin. Et elle craint que la participation au vote soit vraiment faible. Guillaume Guérin, le président des Républicains en Haute-Vienne, est beaucoup plus confiant.
Ceux qui restent aujourd'hui à jour de cotisation aux Républicains sont les fidèles de la première heure. Ils ont été souvent au RPR, puis à l'UMP et aujourd'hui aux Républicains. Donc je ne suis pas tellement inquiet sur la mobilisation. Je pense qu'il y aura un taux de participation tout à fait honnête pour une élection de ce type.
Un deuxième tour, si besoin, est prévu dimanche prochain.
Le Téléthon, 31e édition depuis hier soir, la chanteuse Daisy et la marraine. Un numéro, le 36-37, pour faire vos dons à 13h, un peu plus de 14 millions d'euros ont été récoltés. Dans toute la France, des milliers d'initiatives pour récolter bien sûr des dons pour aider à la recherche dans dans la lutte contre les myopathies. À l'image de Périgueux avec les élèves de l'École nationale de police, épreuve sportive au menu pour ces élèves et pour ce Téléthon. On écoute le reportage de Corinne Duval. Allez,
Très bien. Ça, c'est du tir de précision avec des billes en plastique, comme à l'entraînement. Ici, on fait du sport, on travaille la cohésion et on aide le Téléthon. Le brigadier-chef Charles Jean est le président de l'association de l'école de police de Périgueux.
Tout est basé sur le tir, en fait. Que ce soit des tirs au but, tirs à la pétanque, tir au pistolet, il n'y a que tout ce qui est au niveau course à pied qui fait partie également de notre activité quotidienne en sport. On fait de cette journée une double action en fait. Hein.
Et de fait, ça tire, ça court, vite et bien. Les élèves sont affûtés et pour cause, 4 à 6 heures de sport par jour. Course, mais aussi sport de combat. Nicolas Potier, 19 ans, a troqué sa tenue d'élève gardien de la paix pour le survêtement.
Le sport, c'est mon truc, j'adore ça. Le fait de pouvoir amener de l'argent à une association en donnant un peu de soi-même, ça montre une bonne image de la police déjà. On est volontaire, on veut se donner, ça fait plaisir. Quoi.
Et donner, c'est bien le maître mot de ce week-end. L'école de police a versé plus de 2000 euros au Téléthon l'an dernier.
Rappel donc un numéro pour vos dons, le 36-37 jusqu'à 1h la nuit prochaine. En ski alpin en Coupe du Monde, première épreuve en France, le Français Alexis Pinturault vient de remporter le géant de Val d'Isère. Comme tous les samedis à 13h, c'est la prescription de la semaine. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Alors, votre prescription aujourd'hui porte sur un film iranien, Un homme intègre, de Mohammad Rasoulof. Il faut d'abord dire quelques mots,
oui, c'est important
hein, des ennuis du cinéaste. Hein. Début septembre, son passeport lui est retiré, il a subi un long interrogatoire. On lui demande d'attendre chez lui la convocation à un prochain interrogatoire. Il risque 6 ans de prison. Le film dérange en Iran parce qu'il parle frontalement de la corruption.
Oui, et avec le recul des événements, le titre du film résonne avec une force décuplée, un homme intègre. Mohammad Rasoulof n'a pas transigé sur le film qu'il estimait devoir faire. Reza, son personnage, semble être le seul de son village à refuser le jeu de la corruption. Non que tous les Iraniens soient corrompus, mais même les plus honnêtes, même sa femme, finissent par accepter de payer des bakchiches, faute de quoi la vie pour les simples citoyens semble impossible. Si Reza, qui a de grosses difficultés financières, avait accepté de donner une enveloppe aux employés de sa banque, mais non. Et il va dire non, et encore non, et les ennuis seront de plus en plus grands. Un homme intègre est un très bon film, il fait d'abord dire ça, parce qu'il est construit comme un engrenage, comme un suspense, parce qu'il donne à voir subtilement, outre la corruption, un pays où l'on chasse une élève de l'école parce qu'elle appartient à une minorité religieuse, un pays où des intellectuels, quand ils ne sont pas aigris comme Reza, sont en prison, et aussi parce que c'est un film complexe. Reza n'est pas Zorro. Son honnêteté a des effets secondaires négatifs souvent, il en est presque antipathique, d'où cette question terrible. Peut-on être seul honnête dans une société qui ne l'est pas ?
Et puis Eva, un livre du cinéaste et écrivain Christophe Honoré, Mon père, édité au Mercure de France.
Oui, il a choisi donc cette fois-ci le livre et à le lire, on comprend instinctivement pourquoi. Parce que ça permet de prendre la parole directement, parce qu'il compte sur notre tête pour mettre des images, il n'y a pas besoin d'incarnation. Première phrase du livre, je m'appelle Christophe. Être gay et père, c'est le thème de ce livre et c'est la vie de Christophe. Un jour, un mot infamant est punaisé sur la porte de son appartement. C'est sa fille de 10 ans qui le lui apporte. C'est le symbole du marquage qui est fort. Quelques mots qui salissent sa vie, quelques mots d'insultes, quelques mots qui disent qu'être père est gay, non, ce n'est pas possible, non, c'est laid. L'écriture est fine, il faut que la forme soit juste. Et là, elle l'est. C'est important, c'est pas un témoignage, c'est un livre. Il met en balance la violence qui est faite et qui sera répétée et une vie. Un père qui a eu envie d'être père, une belle relation, une histoire, je dirais, normale, simple et harmonieuse. Il s'en tient à cette histoire, mais il est évident qu'elle a une portée plus large.
Merci Eva Bétan, c'était donc votre prescription du week-end avec le film iranien Un homme intègre de Mohammad Rasoulof et le livre de Christophe Honoré, Mon père, aux éditions Mercure de France.